Le Journal, Eugène Cabat.
Et nous commençons d'abord avec les titres de ces journaux. Rencontre ce samedi, bureau provincial CEI, Bas-Congo et acteurs politiques de la province. Un seul message de la CEI à ses acteurs politiques, éviter la manipulation et les appels à l'anarchie pendant la campagne référendaire sur les projets constitutionnels. Nous réclamons la vérité, c'est l'éditeur du quotidien La Référence Plus qui lance ses cris en direction des pouvoirs publics un mois, jour pour jour, depuis le double meurtre du journaliste Franck Nguiké et de son épouse Hélène Mpaka à Kinshasa. Le journal de l'avenue Victoire estime que tout est bloqué malgré l'arrestation des présumés assassins le 19 novembre dernier. Et puis nous parlerons de la journée mondiale des personnes vivant avec handicap. C'est bien aujourd'hui, le 3 décembre de chaque année. À Goma, par exemple, une centaine de personnes handicapées ont fait une marche dans les rues de ce samedi. C'était pour attirer l'attention de tout le monde sur leurs droits. Bonsoir à tous. La campagne référendaire sur les projets constitutionnels a déjà commencé. Mais faites un effort, pas des discours de manipulation ou des appels à l'anarchie. C'est l'essentiel du message du président du bureau des représentations de la commission électorale indépendante Bas-Congo ce samedi aux acteurs politiques de cette province. Hervé Diakessé a également profité de cette rencontre pour remettre officiellement à ses invités le code de bonne conduite des partis politiques. Pelé Kipela Mondo.
En présence des observateurs permanents de l'Union européenne et des membres de la section électorale de la MONUC Bas-Congo, les coordonnateurs provinciaux de la CEI a rappelé aux acteurs politiques que désormais, la balle est dans leur camp. Vous devez jouer franc jeu, dire à vos militants ce qui est réellement écrit dans le projet de constitution, a affirmé Hervé Diakessé, et d'ajouter, votre devoir n'est pas de truquer ou de tronquer ces textes, ni de manipuler les opinions, de mentir ou d'inciter la population au mépris des institutions et du processus en cours. Les coordonnateurs provinciaux de la section électorale de la MONUC Bas-Congo a déclaré que la campagne référendaire n'est pas synonyme d'anarchie ni d'incitation à la haine ou à la calomnie. Les acteurs politiques ont, selon Mahaman Karimou, trois responsabilités pendant cette période référendaire. Primo, être en parfait accord avec leur conscience. Secondo, savoir que l'honnêteté intellectuelle leur commande de dire exactement ce qui est écrit. Tertio, enfin, savoir que la campagne référendaire ne soustrait pas les acteurs politiques au respect des lois et autres règlements du pays. De Matadi, Pelé Kipela Mondo, Radio Okapi.
De l'Ouest, nous allons dans l'est de la RD Congo, à Beni dans le Nord Kivu, plus de 500 démobilisés du centre d'orientation de la CONADER de Mangango, une localité située à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Beni, s'est démobilisé donc, rejoignent depuis jeudi dernier leur milieu d'origine de réinsertion. Cette opération d'évacuation a été précédée de la paye de la prime de la réinsertion à tous les ex-combattants qui ont choisi de retourner à la vie civile à travers le pays. Étienne Mouindo.
Depuis trois jours, 500 démobilisés du centre d'orientation de Mangango prennent l'avion à partir de l'aéroport Ouagéni de Beni pour les Maniema, l'Équateur, les Kassai occidentales et Kinshasa, la capitale. Cette évacuation menée par la CONADER grâce à l'appui financier du CNUD est la deuxième à l'espace des mois. Toutes les mesures ont été prises pour que les démobilisés voyagent dans de bonnes conditions, déclarent les gestionnaires du centre d'orientation de Mangango. M. Martin Lupanja affirme que des kits de sortie, plus une somme de $110, ont été distribués aux démobilisés avant leur départ. Une fois dans les milieux de réception, chaque démobilisé reçoit mensuellement un appui financier de $25. Cet appui, appelé filet de sécurité, s'étend sur une période d'une année et permet aux démobilisés de se réintégrer dans la vie communautaire.
Dans la province de l'Équateur, un agent de l'Agence nationale des renseignements ANR a été abattu dans la nuit de vendredi à samedi à Ionda. C'est une localité située à 15 km plus au sud de Mbandaka. Mais le mystère plane toujours sur les circonstances de cet assassinat. La police qui est arrivée sur les lieux du meurtre continue des enquêtes pour savoir qui en sont les auteurs ou encore les mobiles de l'assassinat de cet agent de l'ANR. Voyons cela avec Henri Lobondo-Bokilo en Mbandaka.
Tôt ce samedi, la nouvelle du meurtre s'est répandue comme une traînée de poudre tant à Ionda qu'à Mbandaka. Selon les témoins, Jean-Prosper Elumba a été abattu derrière sa maison aux environs des 19h, alors qu'il se soulageait. La veuve qui a accouru au dernier cri de détresse de son mari parlait d'un coup de feu. Mais d'autres membres de la famille affirment plutôt que leur frère aurait été tué par une arme blanche, précisément une flèche empoisonnée. Thèse également confirmée par les premiers éléments d'enquête de la police nationale congolaise descendus sur les lieux. Faute d'une autopsie du corps de la victime, qui porte une plaie au-dessus de l'aisselle droite, il est difficile à l'instant de préciser la nature de l'arme utilisée par le meurtrier. Difficile aussi de lier cet assassinat à la montée de l'insécurité dans la ville ou à un crime passionnel. Toutefois, le procureur de la République ainsi que les services de la police nationale et de la 3e région militaire poursuivent les investigations pour établir les responsabilités. Jean-Prosper Elumba, collaborateur de l'ANR depuis 5 ans, laisse donc une veuve et 6 orphelins. Henri Lobondo-Bokelou, Mbandaka, Radio Okapi.
Et puis ici à Kinshasa, un mois jour pour jour depuis l'assassinat du journaliste Frank Ngike de la Référence Plus et de son épouse à Kinshasa, l'éditeur de ce journal dénonce ce qu'il qualifie de voile opaque qui entoure encore l'enquête sur ces doubles meurtres. Selon Ipakala Abeye Mobiko, qui parlait à la presse ce samedi au siège de son journal, des versions parfois les plus louches et invraisemblables circulent au sujet de ce meurtre commis de sang-froid, affirme-t-il. Malgré l'arrestation des présumés assassins du couple Ngike le 19 novembre dernier par la police, les responsables du quotidien La Référence Plus refusent de croire à la thèse d'un crime crapuleux. On écoute l'éditeur directeur de La Référence Plus, Ipakala Abeye Mobiko.
Je refuse à croire que c'était un crime crapuleux, comme on veut le faire croire. Il y a une main noire, il doit certainement avoir une main noire qui a envoyé ces gens juste pour tuer. Et ils sont partis, ils n'ont rien pris. Et ça, pour un pays qui aspire à un état de droit, je pense que nous voulons réellement ce qu'on nous dise la vérité. Et des enquêtes, parfois, ça ne démarre même pas. On dit qu'il y a une enquête, mais il n'y a pas de conclusion. Donc, on ne souhaite pas qu'on puisse vivre la même situation où on promet l'enquête et puis il n'y a rien qui se fait, on passe seulement l'affaire. Donc là, c'est l'impunité. Quand on doit laisser l'impunité régner, nous sommes tous exposés. Nous sommes exposés. L'État a le devoir de protéger les personnes et l'État ne doit pas prendre la légère l'assassinat de quelqu'un et arriver rapidement à une conclusion que c'est un crime crapuleux.
De son côté, l'ONG Jade, journaliste en danger, a dans le même temps appelé la presse congolaise dans son ensemble à aller plus loin dans les investigations au lieu de tout attendre de la police. Donna Mbaya Chimanga, président de Jade.
Nous estimons que les choses sont bloquées parce que nous n'avons toujours pas la vérité. Nous ne savons toujours pas avec certitude qui a tué Franck. Pourquoi ? Nous disons que la police n'a pas le monopole de la vérité. Dans d'autres affaires, dans d'autres pays, c'est la presse qui est arrivée à détruire la thèse officielle. Vous vous rappelez dernièrement avec les histoires de terrorisme en Grande-Bretagne, la police britannique a commis une bavure en tirant sur un citoyen brésilien qu'ils avaient présenté comme étant un terroriste, mais qui ont révélé que ce monsieur n'avait rien à voir avec le terrorisme, que c'était un paisible citoyen brésilien. C'est la presse. Et la police a fini par admettre. Donc nous avons lancé une interpellation aux journalistes congolais qui sont en train de subir les événements. Ils doivent précéder ces enquêtes-là. Où sont les journalistes d'investigation congolais? Où sont-ils? C'est aujourd'hui, quand il s'agit de la vie d'un de leurs, qu'ils doivent démontrer qu'ils ont des talents d'investigation.
Des propos que nous avons recueillis à la mi-journée au siège de la Référence Plus. Et si vous êtes à Bunia, dans le nord-est de la RD Congo, il est 19h09 et c'est Radio Capi que vous écoutez. La justice militaire en Ituri a désormais une adresse fixe. Elle vient de se doter des deux bâtiments qui vont abriter le tribunal militaire des garnisons ainsi que l'auditorat militaire. Ils ont été construits grâce à l'appui financier de l'Union européenne. La cérémonie d'inauguration de ces deux nouveaux bâtiments a eu lieu sur place même, en face de la CADECO, au centre de Bounia. C'est depuis presque une année que la justice militaire à Bounia n'avait pas de locaux fixes. Les détails avec Ghislaine Nentobo.
$55 000, c'est le coût des travaux de construction de ces deux bâtiments. Chaque bâtiment contient plusieurs locaux où vont fonctionner différents services du tribunal militaire et de l'auditorat. Aujourd'hui, la justice militaire est fière d'avoir ses propres locaux. Cette cérémonie d'inauguration a été une occasion pour le président du tribunal de grande instance de l'Ituri et de Haute-Uele, le major Innocent Mayembe, de présenter un bilan positif du nombre des cas jugés au cours de l'année dernière jusqu'à ce jour, malgré les difficultés rencontrées. Avant les différentes guerres qui ont sévi les districts de l'Ituri, la justice militaire était installée dans un immeuble de fortune situé au quartier Yambiaya, en face du terrain de football. Pendant la guerre, la justice militaire était absente du district durant plus ou moins 7 ans. C'est depuis maintenant une année que cette justice militaire est implantée à Ituri. Par manque de locaux, elle occupait provisoirement les bâtiments qu'apprêtait la police des roulages et criminels en face de la tribune. Les audiences s'éteignaient 2 fois seulement par semaine dans la salle d'audience du tribunal de grande instance, ensuite à la tribune du chef-lieu de l'Ituri. Il faut se rappeler qu'en septembre dernier, lorsque le premier magistrat sont arrivés à Ituri, ils n'avaient ni logement ni infrastructure d'accueil. Aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont tant soit peu soulagés. Bounia, Ghislaine Tobo, Radio Okapi.
Toujours dans le nord-est du pays, après les opérations menées par les soldats gouvernementaux contre les miliciens du FRPI dans la vallée marécageuse des 6 miliciens en Ituri, la population qui a fui ces combats n'est toujours pas rentrée. Ses habitants étaient forcés de ravitailler les miliciens qui avaient établi leur camp dans le village Similiki. Une première mission humanitaire a pu se rendre sur place après les affrontements de fin novembre dernier. Mami Alili Chibang.
Après la pluie, c'est le beau temps, dit-on, mais cet adage n'a pas été le cas pour les familles de pêcheurs qui se sont retrouvées à Similiki pendant les affrontements qui opposaient les FRDC aux miliciens du FRPI commandés par Angoulouma. Similiki est une vallée marécageuse qui a servi d'état-major aux miliciens de Angoulouma. Nombreuses de ces familles ont pris fuite dans les villages environnants, dont Rwambongo et Rukwanzi, selon les patrouilleurs des FRDC. Ces derniers ont pu dénombrer environ 400 personnes qui vivent dans des conditions pénibles. La plupart d'entre elles disent avoir perdu même leur carte de lecteur pendant la fuite. Elles réclameraient le retour immédiat dans leur milieu d'origine à Kasséni. C'est ce qu'a fait l'objet d'une mission mixte Monique Ocha HCR et PAM jeudi dernier à Similiki. De dispositions pour le retour de cette population seront prises très prochainement par ces organismes. Mais pendant ce temps, les miliciens qui étaient basés à Similiki rôdent dans les parages et d'autres se seraient regroupés à Bavi près de la frontière avec l'Ouganda, selon toujours les FRDC. La vallée marécageuse de Similiki, endroit stratégique pour les pêcheurs à cause de la présence de la rivière Similiki, bourrée de poissons capitaines, est actuellement sous contrôle des FRDC. Mais pour le déplacer, la vie est encore loin d'avoir repris son cours normal. Mami Alili Chibangu, Bounia, Radio Okapi.
À Ovira, à l'extrême est du Sud Kivu, 25 familles qui sont retournées spontanément de Tanzanie en début de semaine à Kajembo, village situé à 3 km des Sangé, dans la plaine de la Ruzizi. Ces familles donc sont dans une situation très précaire selon des sources locales. Selon Chongolé Muronda, chargé des radios Sangé, ils n'ont rien à manger et rien pour se vêtir. Certaines familles des retournées sont sans abri. Leurs maisons ont été soit détruites, soit dépouillées des portes, fenêtres et des tôles par les inconnus. Retour à Kinshasa maintenant avec cette journée, avec la commémoration ce samedi 3 décembre de la journée internationale des personnes avec handicap. À Kinshasa, le village Bondeko, centre social spécialisé dans la rééducation des malentendants et des polyhandicapés mentaux, a organisé une journée porte ouverte pour faire connaître au public ses activités. Le public a ainsi pu visiter ses locaux, mais surtout voir les articles produits par les pensionnaires du village Bondeko, comme les pains fabriqués par les malentendants. Le directeur de centre pilote de cette structure appelle les personnes avec handicap à se décomplexer, à enlever tous les complexes, donc, car par le travail, elles peuvent donc, comme tout le monde, avoir une vie réussie. Paul Ntumba est au micro de Donna Madimba.
Quand on a une sorte d'handicap, on ne peut pas désespérer. Quand, par exemple, les jambes sont paralysées et que les mains sont normales, la tête tourne très bien, on peut bien se débrouiller dans la vie. Nous avons des cas, des gens comme ça, mais qui sont aujourd'hui des couturiers, qui sont des cordonniers, et ils le font très bien et ils gagnent bien leur vie. Et quand vous allez au restaurant, je gagne ma vie au niveau de CRHP. Vous allez trouver deux personnes vivant avec handicap qui ont été formées ici chez nous et qui travaillent là-bas, qui se défendent mieux. D'ailleurs, parmi ces deux personnes, il y a l'une dont le salaire a permis de supporter les études de sa grande sœur, qui est aujourd'hui proclamée graduée en sciences sociales à l'ISC, en sciences commerciales plutôt, à l'Institut supérieur de commerce.
Et puis, au cours de ces festivités du village Bombeko, les enfants handicapés qui étudient dans ces centres ont présenté des jeux et pièces de théâtre très appréciées par l'assistance venue assez nombreuse. Direction Goma pour terminer. Une centaine de personnes vivant avec handicap de toutes sortes ont fait une procession, une marche pacifique dans les rues de Goma ce samedi avant-midi. Elles entendaient attirer l'attention de la communauté nationale et internationale sur leurs droits à l'occasion de cette journée mondiale des personnes vivant avec handicap. Le détail avec Jules Ngala.
Parmi ces personnes, il y en a qui souffrent de handicap physique, mais aussi des aveugles, des sourds-muets ou des personnes vivant avec un handicap mental. Elles appartiennent toutes à trois associations qui forment la Ligue provinciale des personnes handicapées du Nord Kivu. Selon le président de cette ligue, M. Jean-Pierre Kasuku, les manifestations organisées ce samedi visaient à, selon ses propres termes, attirer l'attention de la communauté nationale et internationale sur le fait que les personnes handicapées ont des droits et qu'il faut leur faciliter le cheminement dans l'application de ces droits. À l'issue de la procession, les personnes vivant avec handicap, mais qui ont réussi dans leurs études, leur travail ou au foyer, ont donné leur témoignage. Question, disent-ils, d'encourager les autres à ne pas se laisser abattre par leur handicap, inné ou acquis, et avoir toujours de l'espoir pour l'avenir. M. Kasuku a déploré cependant que cette journée, leur dédiée pourtant par les Nations Unies, n'est pas bénéficié, selon lui, de la même attention de la part des organisations humanitaires de la région, comme lors de la commémoration des journées contre la violence ou contre le sida, par exemple. Goma, Jules Ngala, Radio Okapi.
Vous écoutez Radio Okapi, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à Emmanuel Imbandalo Kengai et à Dominique Olombi Mongapange qui l'ont réalisé. Merci à Jean-Claude Siala qui l'a mis en onde. Et au revoir.